Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Alexandre de Villeneuve-les-Avignon nous écrit « Cet homme a traversé le XXe siècle en étant dans les moments chauds de l'histoire du monde. Il a refusé le nazisme et pourtant a été rejeté par son pays. Devenu député européen, il est à l'origine du grand pique-nique pan-européen du 19 août 1988 à Sopron, à la frontière austro-hongroise, qui fut le premier acte officiel d'intrusion à travers le rideau de fer. Il est mort, il y a quelques années, européen dans l'âme. » Mais de qui parle Alexandre? Franck Ferrand va nous le dire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Alexandre nous parle évidemment, si je puis dire, de l'archiduc Otto de Habsbourg, le chef de la maison d'Autriche, qui est mort il y a eu 3 ans, le 4 juillet dernier, à l'âge de 99 ans. Otto était le fils aîné du dernier empereur d'Autriche, Charles Ier, et de l'impératrice Zita. J'avais eu la chance d'aller l'interviewer chez lui, en Bavière, à Peking. C'est une des grandes figures du XXe siècle que nous allons faire revivre cet après-midi.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Emmanuel sur les origines du drapeau brésilien.
Ah, on l'a beaucoup vu, ce drapeau, lors de la récente Coupe du Monde de football. Je vous dirai d'où il vient. Pour le moment, place à l'Autriche, à l'Europe, place aux Habsbourg.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
C'était en 2006, il y a 8 ans, presque jour pour jour d'ailleurs, dans le cadre d'un documentaire que je préparais pour la télévision, j'avais obtenu un rendez-vous avec le chef de la maison d'Autriche, l'archiduc Otto de Habsbourg. C'était donc chez lui, en Bavière, à Peking. Je me souviens d'une belle maison dans un joli parc, mais dont les fenêtres étaient barrodées contre les importuns par des, vous savez, ces espèces de volets métalliques en accordéon qu'on n'avait pas pris la peine ou le soin d'ouvrir, ce qui créait évidemment une très étrange atmosphère à l'intérieur de la maison. Je me souviens surtout du maître de maison, un vieux monsieur extrêmement élégant dans sa veste autrichienne, plein de prévenance, de discrétion, de finesse, et s'exprimant dans un français digne du siècle des Lumières. Pendant plus d'une heure, j'allais donc pouvoir m'entretenir avec celui qui n'était pas seulement l'héritier des Habsbourg, le descendant de Charles Quint, le dernier tenant de la grande histoire. L'archiduc Otto était aussi un témoin vivant de la grande histoire. Lui qui avait tenu tête à Hitler, conseillé le président Roosevelt, accompagné dans leur aventure Monet, Schumann et d'autres Européens. Mais à mesure qu'il parlait, évidemment, l'image qui me revenait sans cesse, c'était celle de cet enfant espiègle, presque turbulent et en même temps tellement émouvant qu'on voit agiter sa toque à plumet sur les films du couronnement de ses parents en 1918. C'était lui, c'était le même à 90 ans d'écart. 3 années plus tard, je dirais que c'était une sorte d'apparition, puisqu'alors j'ai revu l'archiduc Otto dans un cadre public, cette fois dans un grand dîner en l'honneur de l'ordre de la Toison d'Or, et je me rappelle de ma stupéfaction de l'avoir vu, ou entendu devrais-je dire, sans la moindre note, improviser un discours de 20 minutes en français, lui qui parlait 8, même 10 langues, un discours plein d'humour et plein de grandeur mêlée. Cela me fait plaisir évidemment aujourd'hui de rendre hommage à cet homme qui n'était vraiment pas banal, qui était un peu, je disais tout à l'heure, la conscience de l'Europe. On va voir jusqu'où on peut considérer cela avec notre invité Jean Sevilla. Il est né à la villa Wartholz de Reichenau, an der Rax. Reichenau, c'était une des belles demeures, une des belles résidences secondaires de la maison de Habsbourg. Il est né donc le 20 novembre 1912. Son père, Charles-François-Joseph de Habsbourg-Lorraine, à l'époque, est un proche parent de l'empereur régnant, François-Joseph, mais il n'en est pas encore l'héritier. Quant à sa mère, c'est la princesse Zita de Bourbon-Parme. Il est l'aîné de 8 enfants. Il porte lui-même le même nom que son grand-père, qui s'appelait aussi Otto de Habsbourg-Lorraine. Alors, L'ascendance du personnage est très prestigieuse, bien entendu. Il est un descendant de Charles Quint, de Marie-Thérèse, mais aussi de Louis XIV. Or, un certain 28 juin 1914, tout bascule lorsque, à la suite de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et de son épouse Morganatic à Sarajevo, on en a tellement parlé à la fin de la saison dernière, je n'y reviendrai pas évidemment, à la suite de cet assassinat, c'est son père qui devient l'héritier de François-Joseph. Et à 4 ans, lui-même devient l'héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie puisque c'est son père qui devient l'empereur. En effet, le 22 novembre 1916, le vieil empereur François-Joseph qui régnait depuis le printemps des peuples, depuis 1848, le vieux François-Joseph finit par s'éteindre en plein milieu de cette guerre mondiale et c'est donc Charles qui devient l'empereur Charles Ier d'Autriche. Il est aussi Charles IV de Hongrie, Charles III de Bohême et je passe sur deux autres couronnes. Il succède à François-Joseph Ier donc, la mère, donc Zita, devient l'impératrice et le 30 décembre, c'est le couronnement de ses parents. Je vous ai dit en 1918, tout à l'heure c'était donc en 1916, 30 décembre 1916, couronnement à Budapest dans l'église Matthias, la même église qui avait vu le couronnement déjà de François-Joseph et Sissi. Vous savez, ça a fait l'objet d'une belle scène au cinéma, ça bien entendu, c'était un demi-siècle plus tôt, 1867. Alors il y a cette photo, il y a ces films où l'on voit le petit Otto au milieu de ses parents, fier et digne avec ses attributs royaux, il regarde un peu partout, alors avec l'accélération de l'image propre au film de l'époque, on a un peu l'impression qu'il est tout à partout à la fois. Eh bien c'est lui, c'est le petit gamin qui va devenir ensuite notre personnage, bien entendu. Les parents ne resteront que 2 ans au pouvoir, bien entendu. C'était une époque où la cour d'Autriche n'était évidemment plus que l'ombre de ce qu'elle avait pu être. Encore une fois, je vous rappelle qu'on était en plein dans la guerre mondiale. D'ailleurs, voilà ce que l'archiduc Otto lui-même, le 28 mars 2007, ici, au micro de Frédéric Taddeï, racontait à propos de cette cour d'Autriche.
L'Empire austro-hongrois, les Français l'imaginent un peu comme l'Empire de Sissi, avec des fastes, des grands bals. Est-ce que c'est ce que vous avez connu? C'est le souvenir
non.
que vous en gardez, vous?
Je n'ai rien connu de cela, parce que j'étais trop petit. Et deuxièmement, mon père, Dieu merci, comme empereur et roi, a aboli tous ces luxes, tous ces choses, parce que le peuple souffrait de la guerre, avait faim. Et on ne l'a jamais eu chez nous. En tous les cas, on ne pouvait pas le critiquer qu'il n'ait pas fait exactement ce qui était le sort même de ceux qui étaient dans une situation très, économiquement très difficile.
La voix magnifique de l'archiduc Otto de Habsbourg avec cette façon tellement élégante de prononcer un français irréprochable. Le 11 novembre 1918, alors qu'on est en train à l'ouest de signer l'armistice, bien entendu, l'Empire d'Autriche-Hongrie s'effondre. Charles Ier, dans des circonstances sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure avec Jean Sévilla, va être contraint de renoncer au trône. Dès le lendemain, dès le 12 novembre, l'Autriche devient une république. L'Empire est démembré dans les mois qui suivent. Vous savez que ça va être toute la question de la règlement, bien sûr, de la paix de 1919, avec à la manœuvre un certain Clémenceau, ça aussi nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et le 3 avril 1919, par la loi d'exil qu'on appelle là-bas la loi des Habsbourg, le Parlement autrichien bannit d'Autriche la famille de Habsbourg-Lorraine, d'une façon violente, si je puis dire. Et pourtant, le père d'Otto va tenter, ses parents devrais-je dire, vont tenter de remonter sur le trône de Hongrie en 1921. Deux tentatives qui vont se solder par des échecs. Il faut faire la part là des manœuvres du régent Horthy qui va empêcher Charles de remonter sur le trône. Le couple impérial, finalement, à l'issue d'une conférence qu'on appelle la conférence des ambassadeurs, qui siège à Paris d'ailleurs, le couple impérial va être envoyé en exil. Ce sera l'île de Madère. On reviendra tout à l'heure sur le rôle de la France en général et de Clémenceau en particulier. Alors, Il y a là un drame, c'est la mort du père. Charles va tomber, vous savez, très vite malade à Madère. On a vu ça dans la très belle série qu'avait faite Frédéric Mitterrand, Les Aigles Foudroyés, où l'on avait toutes les images de cet exil à Madère. Il a contracté, l'ancien empereur a contracté une bronchite. Et le 1er avril 1922, il décède à l'âge de 34 ans. À ce moment-là, Otto se retrouve avec ses 7 frères et sœurs, avec sa mère. Et c'est pour lui le début d'une toute autre existence.
Un extrait de Rhapsody in Blue sur Europe 1 de Georges Gershwin. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie d'Otto de Habsbourg.
Alors, Otto de Habsbourg, tout jeune qu'il puisse être, il a 9 ans. Il devient chef de la maison impériale, bien entendu, prétendant au trône d'Autriche et de Hongrie. Voilà ce que nous dit Michel Régamé, un de ses biographes. Après avoir été pendant 2 ans l'héritier d'un empire de plus de 60 millions d'habitants, il ne fut bientôt plus qu'un pauvre orphelin, émigrant d'Autriche en Suisse, de Suisse à Madère, de Madère en Espagne et d'Espagne en Belgique. Alors pourquoi l'Espagne, pourquoi la Belgique? Nous y venons. D'abord, c'est le roi d'Espagne, Alphonse XIII, qui invite l'impératrice, enfin l'ancienne impératrice Zita et sa famille à venir s'installer au Pays Basque, à Lekeitio. On peut dire que pour Otto, ce sont des circonstances difficiles, mais en même temps, tout ça est baigné d'amour, de vertu. On est sous la férule d'une femme assez extraordinaire. Il reçoit une bonne éducation. Le comte Degenfeld est chargé de conduire sa formation intellectuelle. Il est d'ailleurs lui-même passionné d'histoire, il le sera toute sa vie. Et parmi ceux qui assistent le précepteur, il y a les bénédictins hongrois de l'abbaye de Pannonhalma. Nous y viendrons à ça aussi tout à l'heure. En 1929, toute la famille quitte le Pays Basque pour aller s'installer en Belgique parce qu'il faut qu'Otto puisse faire des études. Il va les faire à l'université de Louvain, études en droit et en sciences politiques. Le 20 novembre 1930, Otto a 18 ans, c'est-à-dire que selon les règles Habsbourg, il atteint sa majorité. Et au cours d'une cérémonie très simple d'ailleurs, sa mère va lui transmettre l'héritage politique de son père. Vous voyez ce qui pèse sur les épaules de ce tout jeune homme qui va aller faire ses études secondaires chez les bénédictins de Clairvaux et il sera reçu à son doctorat à Nancy. Très peu de temps après, un an et demi après. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que à cette époque, au moment où Hitler accède à la chancellerie, il va dans un premier temps tenter de se concilier les bonnes grâces, bien sûr, de cet héritier des Habsbourg. Seulement, il ne veut rien entendre, notre Otto. Et peu à peu, les relations vont se dégrader considérablement. Otto va condamner l'Anschluss en 1938, donc cette annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Il refuse de se rendre à une convocation du Führer. D'ailleurs, Hitler, dans cette affaire, a fait preuve, si je puis dire, d'humour. C'est peut-être la seule fois, en tout cas c'est une des rares fois dans sa vie. Il avait baptisé l'opération d'annexion, l'Anschluss, c'était l'opération Otto, justement. Otto va réussir à passer en Espagne avec sa mère Zita et le reste de la famille. On est là en juin 40. Il gagne dans un premier temps le Canada, puis bientôt les États-Unis. Et là, dans des circonstances que nous verrons tout à l'heure, il va devenir un proche, en tout cas l'un des conseillers du président Roosevelt. On est en plein dans la Seconde Guerre mondiale. Il a son bureau à la Maison-Blanche. On verra pourquoi dans un instant. Alors, il va d'ailleurs en profiter pour essayer d'améliorer le sort d'un certain nombre de ses compatriotes. Il va en faire échapper par centaines, en particulier des juifs recherchés par les nazis. Il faut vous dire que Otto de Habsbourg est toujours et depuis toujours très attaché, non seulement à la France, mais à la Lorraine en particulier. Après tout, il s'appelle Otto de Habsbourg-Lorraine. Il devait raconter d'ailleurs, c'était au moment de ses noces d'or, les 50 ans de mariage avec la princesse Regina de Saxe-Meiningen. On était en 2001, il avait déclaré « Je n'oublierai jamais que lorsqu'en 1918, certains événements révolutionnaires avaient lieu en Autriche, mon père m'avait dit « Renoncez à tout s'il le faut, mais ne renoncez jamais à la Lorraine ». Voilà ce que Otto de Habsbourg disait lui-même de la Lorraine.
Vous savez, quand on est d'origine lorraine, on n'oublie jamais. Les Lorrains ne vous oublient pas. Je connaissais très bien le maréchal Lyautey, par exemple, et des personnages dirigeants de la Lorraine. J'ai toujours été reçu comme un Lorrain entre les Lorrains à Nancy et dans d'autres places de la Lorraine. Et par conséquent, c'est une vieille amitié qui date naturellement de siècles. Et je crois que c'est une bonne amitié.
Vous êtes marié en Lorraine, je crois.
Oui, exactement.
Vous revenez régulièrement en Lorraine?
Ah oui. Oui, au moins une fois par an.
Il s'était marié effectivement en Lorraine avec Regina, dont je parlais. C'était le 10 mai 1951, à la chapelle des Cordeliers, où reposent les sépultures des ducs de Lorraine. Alors, sa femme était la fille du prince Georges de Saxe-Meiningen, duc en Saxe, et de la princesse née comtesse Clara Maria von Korff. Et avec elle, il aura lui-même 7 enfants, dont l'ambassadrice de Géorgie à Berlin, Gabriella. Les noces d'or ont été célébrées, je vous l'ai dit, en 2001 à Nancy. Ça a été un grand moment. Il y avait plus d'un millier de personnes présentes. Ça a été un grand moment de fête au cours duquel l'archiduc a pu rappeler son attachement donc à la Lorraine, à la France d'une façon plus générale. Il était membre de l'Institut de France, il était président du comité pour le français langue européenne. Vous savez, il parlait, je disais tout à l'heure, au moins 8 langues, et j'avais été frappé en interviewant un certain nombre de ses neveux, nièces, cousins, etc., de constater que tous ces Habsbourg parlent mais toutes sortes de langues. C'est absolument incroyable, vous leur adressez la parole dans n'importe quelle langue. Je lui avais dit ça, j'avais dit mais c'est inouï chez vous. Il me dit, vous savez, dans la famille, en dessous de 8 langues, on est un peu un illettré, m'avait-il répondu. Alors, s'était marié en 51 et en 54, il était allé s'installer avec la princesse Regina de Saxe-Meiningen, donc dans la petite ville bavaroise de Peking. Il obtiendrait la nationalité allemande en 79 à sa demande et pour pouvoir participer aux toutes premières élections au Parlement européen, ce qui fait qu'il était député européen, mais député européen de l'Allemagne. Alors, entre-temps, il a été autorisé à revenir en Autriche. Ça a été une grande affaire. En 1966, il est rentré sous le nom de docteur Otto Habsbourg-Lorraine. On avait enlevé même jusqu'à la particule. Ça me fait penser, lorsqu'on tournait le même film, je devais interviewer l'un de ses fils, l'archiduc Karl, sur place à Vienne. Et je dis ça à la conservatrice de la Hofburg, vous savez, du palais impérial de Vienne. Et je lui dis, nous devons recevoir son Altesse impériale et royale, l'archiduc Karl de Habsbourg. Et elle me dit, vous voulez parler de monsieur Habsbourg, sans doute. Il y a en Autriche cette espèce de républicanisme à fleur de peau. Il avait des passeports autrichiens, allemands, suisses, croates. Plus tard, en 89, il va même récupérer la nationalité hongroise. Alors pendant toutes ces années, on a vu Otto de Habsbourg travailler à construire une Europe de la paix. Il avait même renoncé pour ça à ses prétentions au trône d'Autriche. Il y renonce dès 1961. Pour constituer une Europe forte, unie et chrétienne qui réponde, je le cite, aux traditions de ma famille qui a toujours été européenne. Vous savez que Charles Quint voulait déjà fonder la chrétienté universelle. Il semble que son dernier, avant-dernier descendant n'y était pas lui-même très opposé.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de l'archiduc Otto de Habsbourg.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de l'archiduc Otto de Habsbourg.
Otto de Habsbourg avait de très grandes ambitions pour l'Europe. Il voulait une Europe de la paix et des nations. Voilà ce qu'il dit dans un reportage à la télévision française en 1991. « Il faut être bon patriote pour être bon européen. L'Europe est une communauté de nations, une communauté diversifiée. L'Europe est un dénominateur commun, un patrimoine commun. Il n'y a jamais eu autant de musées des arts et traditions populaires que de nos jours et la jeunesse s'y intéresse. » C'était très optimiste. Optimiste comme vision, mais en tout cas, ça ne manquait pas d'ambition. Le 23 septembre 1969, à Vienne, puisqu'il avait désormais le droit de rentrer dans son pays, Voilà ce que disait l'archiduc Otto. Enfin, il n'était donc à Vienne, il n'était plus considéré comme l'archiduc. Encore une fois, il était le docteur Habsbourg, Lorraine. L'Europe garde encore le potentiel intellectuel le plus riche du monde, disait-il. Si elle le perd, la faute ne pourra en être rejetée que sur nous. De la sagesse de Charles Quint au suicide par le feu de Jan Palach, un arc puissant se tend à travers l'histoire. C'est à nous de le reprendre. C'était un discours d'autant plus symbolique que, précisément, Vienne lui avait été longtemps refusé. Il n'avait pu rentrer sur son sol natal qu'en 1966 et encore en faisant de très gros sacrifices sur un plan politique et dynastique. On peut dire que Otto de Habsbourg faisait partie de ces Européens convaincus qui avaient suivi la voie de Robert Schuman, de Jean Monnet, etc. Il était dans cette idée d'une construction européenne. Il ajoutait, pour ce qu'il concernait, l'Europe sera chrétienne ou ne sera pas. Et oui, il est bien Habsbourg pour autant. Hein, nous allons en parler dans un instant avec évidemment avec Jean Sevilla. Nous allons revenir sur la dimension catholique de cette politique des Habsbourg. C'était par ailleurs évidemment, il avait été en son temps farouche opposant au nazisme, mais il était devenu bien sûr un farouche opposant au communisme. Alors il a milité au sein de l'Union pan-européenne internationale auprès de Richard de Coudenhove-Carnegie, hein, qui était un des premiers avoir mis sur pied un projet d'Europe unie. Il en a assuré d'ailleurs la présidence de ce mouvement de 1973 à 2004. Ensuite, il est devenu président d'honneur. Et le vice-président de cette union pan-européenne, le vice-président français, Georges Darcourt, écrivait dans le Figaro le 16 juillet 2011 « Connaissant l'Europe et le monde mieux que quiconque, familier de nombreux hommes d'État, il avait une perception claire de ce que devait être une politique européenne visionnaire et réaliste à la fois. Fervent défenseur d'une Union européenne qui assumerait sa souveraineté et son indépendance dans le respect de sa diversité, il s'était attaché dès la chute des régimes communistes à arrimer les pays d'Europe centrale à l'Union. » Et je vous l'ai dit, en 69, il va jusqu'à participer aux premières élections européennes. Il est élu sur la liste du CSU bavarois. Il sera ensuite réélu régulièrement, réélu trois fois. L'archiduc Otto de Habsbourg est donc mort à 98 ans, le 4 juillet 2011, à Peking, en Bavière. Il y a eu une grande messe de requiem à la basilique Saint-Étienne de Budapest dès le 16 juillet. Une messe célébrée au nom du pape par le cardinal Christoph Schönborn avec des évêques qui venaient de tous les coins de l'ancien empire. Et puis il y a eu ces funérailles en grande pompe à Vienne avec l'inhumation à la crypte des Capucins, évidemment, hein, qui est la crypte, la nécropole de la famille impériale de Habsbourg. Sa femme, la princesse Regina, qui était morte en 2010 à 85 ans, a été portée en terre à ses côtés. Il faut imaginer ce qu'a pu être le cortège funéraire, d'ailleurs assez folklorique pour ce qu'on a pu en voir à la télévision. Moi, je n'y étais pas, mais il y avait 3500 personnes, 10 000 personnes qui assistaient à cette espèce d'incroyable défilé qui paraissait faire renaître cette Autriche-Hongrie de temps immémoriaux. Alors, on peut dire que peut-être l'une des dernières joies de Otto de Habsbourg en ce monde, ça aura été de voir son père béatifié. C'était en octobre 2004. Le pape Jean-Paul II avait fait à la famille le plus beau des cadeaux en béatifiant cet empereur Charles Ier. Ça a été un moment assez extraordinaire. Et voilà ce que disait, parlant de son père, ce que disait à Frédéric Taddeï Otto de Habsbourg. Il avait été très meurtri, bien entendu, par les circonstances de la déchéance, de l'exil, de la mort très précoce de son père. Mais plus que tout, ce qu'il avait du mal à supporter, c'était les accusations contre son père, des accusations de... Vous savez, l'empereur Charles voulait mener une paix séparée et il a été accusé d'avoir plus ou moins trahi son pays. C'était à l'origine de la chute même du régime impérial. Voilà ce qu'en disait Otto de Habsbourg au micro de Frédéric Taddeï en 2007.
Depuis le début de la guerre, où il était prince héritier, il a toujours été au front. Les autres dirigeants, eux, étaient dans un bureau confortable, donnaient des ordres, ne savaient pas ce qu'était la guerre pour les gens, pour les soldats. Donc mon père savait ce que c'était, et par conséquent, il est devenu un des champions d'essayer d'obtenir une paix, paix raisonnable. Ça n'a pas fonctionné, il y avait trop peu de temps, etc. Ça arrive, oui, on pourrait écrire un livre d'histoire à ce sujet, mais effectivement, c'était ça, son expérience pratique sur le front.
Bonjour Jean Sévilla.
Bonjour.
Dans un instant, nous allons revenir avec vous sur cette saga dramatique des Habsbourg-Lorraine. Je précise, un certain nombre de nos auditeurs, d'ailleurs, me rappellent à quel point l'archiduc Otto tenait beaucoup à ce qu'on aille jusqu'au bout et qu'on l'appelle bien de Habsbourg-Lorraine. Et puis nous reviendrons bien sûr sur son parcours à lui, un parcours assez exemplaire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
C'est l'archiduc Otto de Habsbourg qui est au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, Jean Sévilla, écrivain, rédacteur en chef adjoint au Figaro Magazine et membre du comité scientifique du Figaro Histoire.
Vous avez bien connu Otto de Habsbourg, Jean Sévilla. Vous avez eu de nombreux entretiens avec lui, y compris des entretiens privés, il faut le dire.
Oui, j'ai rencontré souvent. Oui, c'est un homme pour qui j'avais une grande admiration. Alors, il se trouve que j'ai écrit un livre sur son père, un autre sur sa mère, et puis je m'intéresse à l'histoire de sa famille. Donc, il m'honorait son amitié, si je puis dire, mais je ne veux pas me vanter. Mais donc, je l'ai vu souvent dans un cadre privé. Quand il passait à Paris, il me faisait toujours signe. Donc, on a eu souvent des entretiens privés où il allait très loin dans les confidences.
Oui, et c'était quelqu'un qui ne maniait pas du tout la langue de bois, je tiens à le préciser. Hein.
Pas du tout, pas du tout.
C'est le moins qu'on puisse dire, même, oui.
Alors, ce qui était très étonnant, si vous me permettez un souvenir, parce que l'une des dernières rencontres que j'ai eues avec lui, c'était en 2008. J'allais l'interviewer pour mon journal, pour le Figaro Magazine, et on voulait faire un portrait, et on m'avait demandé une grande partie historique. Donc, il m'avait raconté ses souvenirs, sa jeunesse, François Joseph, ses parents, etc. Et puis, on était en 2008, on était à quelques semaines du premier tour de l'élection américaine. Et puis, là-dessus, je lui en parle, et puis tout d'un coup, je le vois s'animer, et il me parle des mérites respectifs de John McCain et de Barack Obama, et il sentait que le sujet l'intéressait beaucoup plus que de me parler ses souvenirs. Et c'était fantastique de voir cet homme de 96 ans à l'époque, qui au fond était beaucoup plus animé par le souci de l'actualité mondiale.
Et par l'avenir que par le passé.
Par l'avenir que par le passé.
Ah oui,
c'était très étonnant cette force qu'il avait.
C'était très intéressant, j'ai eu la même expérience en l'ayant connu infiniment moins bien que vous, mais j'avais effectivement noté qu'il parlait du passé par devoir et de l'avenir par passion. C'était très
ça.
Différent.
Exactement hein. Ça.
Et c'était un homme qui aimait la politique, mais au sens le plus noble du mot, hein, et qui avait une vision, qui aurait sans doute aimé vivre encore bien des années pour voir comment tout ça allait évoluer. Il y avait vraiment cette dimension, cette dynamique.
Il avait une vision d'avenir. Il avait vraiment ce qu'on appelle une vision. C'est-à-dire toute sa vie politique, sa vie intellectuelle, sa vie publique a été animée par une vision de l'Europe. Une vision du monde, une vision de l'homme, de la famille. Enfin, il avait des convictions fortes. Alors, on peut les partager ou non, mais c'était un homme qui, de son avis, était infiniment respectable et qui a été respecté, y compris par ses adversaires.
Oui, je crois qu'il a fait l'unanimité au moment de son décès. Ça a été extraordinaire de voir à quel point la presse, toute tendance confondue, a fait un éloge incroyable.
Tout à fait. Alors, c'est ces obsèques auxquelles moi j'ai assisté, c'était l'hommage de plusieurs mondes qui se confondaient. Mais il y avait la vieille Autriche et puis aussi la nouvelle Autriche, puisqu'il y avait toutes les autorités de la République d'Autriche qui rendaient hommage au fils du dernier empereur.
Alors il se passionnait pour la politique, notamment américaine, pour l'avenir, etc. Mais il avait une autre grande passion pour l'histoire, incontestablement. Il aimait bien d'ailleurs revenir sur certains points de détail. Et je le revois entrer dans le moindre détail des cérémonies du couronnement de ses parents, disant « Mais ce qu'on raconte est complètement faux, j'ai encore lu un livre ridicule, au contraire, voilà comment ça s'est passé, moi j'étais placé là, etc. » Il racontait les moindres détails. Et ce qui était très amusant, les travers, les petits mots des ministres de son père, etc. Donc il avait, très tôt, il avait eu cette conscience politique avec une mémoire d'éléphant.
Une mémoire d'éléphant, c'est exactement ça. Il se souvenait de détails et en même temps, comme il avait un souci des hommes, il s'intéressait aux êtres humains, donc il notait les petits détails, y compris les petits ridicules, mais les grandeurs aussi. Mais donc, ça supposait de sa part voilà, une grande acuité et un grand intérêt pour l'homme en général.
Alors j'aimerais qu'on revienne sur deux grands chapitres avant d'arriver aux questions européennes notamment. Deux grands chapitres que sont évidemment son bras de fer avec Hitler et ses relations avec le président Roosevelt. Mais avant ça, en deux mots, puisque j'ai déjà raconté comme ça, à grands traits, évidemment, cette enfance a été plus que boussée. Il naît en 1912, en 1914 son père devient l'héritier du trône, en 1916 ses parents deviennent l'empereur et l'impératrice, en 1918 ils sont chassés du trône, en 1922 il n'a jamais que 10 ans, son père vient à mourir à Madère. D'ailleurs son père avait voulu qu'il assiste à ces derniers instants.
Tout à fait, il a assisté à l'agonie de son père, à la demande de son père. Son père voulait qu'il assiste, voir comment meurt un chrétien, comment meurt un empereur chrétien. Voilà, c'est ça. Ça a marqué évidemment sa vie. Otto était aussi très marqué par les convictions chrétiennes qui chez lui étaient fortes. Mais tous les événements qu'il a vécu enfant ont certainement participé d'une maturité qui est venue chez lui très très jeune. C'était un homme qui avait aussi l'esprit de sérieux. Hein, je veux dire, il avait aussi en cela hérité de quelque chose de sa mère. Mais enfin, on sentait que chez lui, c'était toujours les grands sujets qui l'intéressaient, voilà, et plus que les anecdotes.
En fait. Oui, bien sûr, la force, les rapports de force, le fond des choses plus que leur forme, incontestablement. Il voit donc son père mourir, d'ailleurs beaucoup plus tard, au moment du rapatriement des cendres de son père, il assistera à l'exhumation, il verra le...
En 1972, dans le cadre de la procédure de béatification de son père, l'empereur Charles, on a fait une reconnaissance du corps, et ils ont constaté que
avec ses frères.
Hein, oui, ouais. Avec ses frères, deux de ses frères, et que le corps de l'empereur était intact en 1972. Donc, ils ont vu le visage de leur père 50 ans après sa mort. Quoi.
C'est tel qu'il était lorsqu'il l'avait.
Ouais. Donc, c'est quelque chose de très, très
fort,
émouvant.
Qu'il l'avait profondément bouleversé. Plusieurs auditeurs nous demandent, j'ai parlé de son ascendance, pas de sa descendance. J'ai dit qu'il avait quand même eu 7 enfants. Il avait des frères, des sœurs qui eux-mêmes ont beaucoup d'enfants. Ils sont très, très, très prolifiques, les Habsbourg. Il y en a partout, des Habsbourg.
Il y a 200 Habsbourg. Ils sont très nombreux, tout à fait.
Oui, c'est une vraie famille catholique qui fait beaucoup d'enfants.
Hein,
alors, comment expliquer, bon, il est en exil, on a bien compris, sa mère vient en Belgique pour faciliter ses études, en fait, hein, pour qu'il puisse étudier à Louvain.
Pays francophone, c'est ce que souhaitait l'impératrice, que c'est le français était très fort dans la famille.
Donc... Elle-même, princesse de racine française, était Bourbon-Parme. Et il fait donc des études de droit, de sciences politiques, ça lui convenait très bien. Et puis on est à l'époque de la montée du nazisme. Et le chancelier du Reich, Hitler, évidemment, aimerait bien avoir le soutien du descendant de Habsbourg. Ça lui ferait plaisir, ça flatterait son ego peut-être, et ça faciliterait sa politique.
Là, c'est vraiment une page magnifique de l'histoire d'Otto, qui est peu connue en France, mais il a incarné personnellement et familialement, avec ses fidèles, une résistance inébranlable au nazisme. On parle de toutes les victimes du nazisme, il le faut, mais il faut pas oublier qu'il y a eu des fidèles des Habsbourg, beaucoup, hein, parmi les premiers trains de déportation en 1938, lors de l'Anschluss, il y avait des fidèles de la maison de Habsbourg, parce que, eh bien, les Habsbourg incarnaient une idée de l'Europe chrétienne, et donc opposée totalement au nazisme, et puis une idée de l'histoire, et puis cette idée de l'indépendance de l'Autriche. Hitler voulait confondre l'Autriche et l'Allemagne, et les Habsbourg incarner au contraire l'identité autrichienne, c'est autre chose.
Alors, il a tenu tête à Hitler, ce qui n'était pas évident. Ça n'est pas le cas de la famille impériale d'Allemagne, par exemple, si l'on veut. Hein,
mais... Certains enfin, bon, bref, on peut dire du côté des Allemands, mais nous ne sommes pas là pour faire le procès.
Non, non.
Donc, Hitler, Otto, avec son tout jeune âge, c'était un jeune homme, s'est dressé au fond seul, a animé un mouvement de résistance.
C'est là peut-être que le catholicisme a aidé aussi, peut-être.
Sûrement, hein. Sûrement, bien sûr. Et avec beaucoup de courage, là, on peut dire avec un peu de. Il y avait peu de chance que, peut-être, bon, mais il se posait un geste pour l'avenir, voilà, et c'était un symbole fort, et ça, personne ne lui a retiré, d'ailleurs.
Alors, le voilà parti au Canada, alors je vais très vite, parce que ça a été beaucoup plus complexe et long que ça, bien entendu.
Que ça, mais donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, en effet, les Habsbourg sont émigrés en Amérique, Canada ou États-Unis, et là, ils vont mener un autre combat, au service d'un pays qui les a rejetés pourtant, au service de l'indépendance de l'Autriche, parce qu'il fallait, l'Autriche avait été annexé par l'Allemagne en 1938 et on était en guerre, il fallait obtenir que les Alliés inscrivent dans leur but de guerre leur établissement en Autriche comme pays souverain. Ce qui n'était pas donné parce que tout le monde n'était pas pour cette idée.
Donc, surtout à Washington, oui.
Il y avait des adversaires de cette idée. Les socialistes autrichiens étaient plutôt pour une certaine annexion de l'Autriche à l'Allemagne, d'ailleurs, paradoxalement, pas dans le sens nazi, évidemment, mais enfin... Et donc, Otto a mené un combat, donc il a beaucoup travaillé auprès du président Wilson, du président Roosevelt.
Mais alors, comment Roosevelt le rencontre-t-il? C'est lui qui le convoque? Ça s'est passé comment? Là, c'est étonnant.
Alors, il y a eu un travail de réseau, Otto, à l'époque, enfin, il était déjà une personnalité, donc Roosevelt a voulu le rencontrer, puis Otto voulait le rencontrer.
Il avait une trentaine d'années, il faut dire. Hein.
Oui, tout à fait, c'était un jeune homme. Et donc, il est allé voir le président américain et il lui a expliqué qu'il fallait que l'Autriche redevienne souveraine après la guerre. Donc, le frère cadet d'Otto, Robert, faisait le même travail à Londres auprès de Churchill. Et donc, ce travail a fini par aboutir, puisqu'en 1943, Lors de la conférence de Moscou, d'ailleurs, les alliés ont reconnu qu'il fallait recréer une Autriche souveraine à l'issue de la guerre.
Mais on aurait pu.
Et c'est un travail qu'on doit largement. C'est un succès qu'on doit largement à Habsbourg, pas qu'à eux, mais largement.
Oui, oui.
Mais c'est d'Amérique qu'ils n'auraient jamais reconnu.
Mais c'est ça. Hein. C'est
donc assez là, il y a une injustice de l'histoire.
Et non seulement ça l'aurait pas reconnu, mais on aurait pu imaginer qu'à la libération, les Autrichiens rendent hommage à Otto. Au moins l'autorisent lui, ses frères, sa famille à rentrer en Autriche. Pas du
mais
tout,
c'est
en fait.
Au contraire, qui s'est passé, puisqu'en 1945, la deuxième République d'Autriche a renouvelé les lois d'exil des Habsbourg, qui se sont retrouvés donc comme des princes errants à travers l'Europe.
Ça a été une douleur pour lui. Hein. D'ailleurs, on a des films hein, du tout début, enfin, on va dire des années 50, où il est là aux frontières de l'Autriche, où il regarde son pays. C'est terrible, ouais. Hein, ça. Hein.
Et d'ailleurs, s'il avait choisi la maison de Peking, c'est parce qu'au loin, on voit l'Autriche.
On voit très bien l'Autriche, oui, bien sûr. Dès qu'il fait un peu beau, oui, bien sûr. Alors, il va aller très loin pour revoir l'Autriche, justement. Il va aller jusqu'à renoncer à ses droits dynastiques et successoraux. En fait,
en 1961, en effet, il signe une déclaration de reconnaissance de reconnaissance des institutions autrichiennes de la République d'Autriche, donc qui lui donne le droit d'entrer dans son pays. Malgré cela, il va y avoir une opposition entre Autriche extrêmement virulente à l'égard des Habsbourg, parce que les réflexes anti-Habsbourg que vous évoquiez, que vous avez rencontrés à Schönbrunn, existent encore officiellement.
C'était, et donc, en l'occurrence, c'était à la Hofburg, mais
oui,
peu importe.
Mais Hofburg, pardon. Mais enfin, bon,
c'est, ah oui, c'est la même chose.
Et donc, il y a une levée de boucliers. Le Parti socialiste autrichien voulait organiser une grève générale si Otto rentrait sur le territoire autrichien, etc. Et donc, ça n'a pu se faire qu'en 1966. Il a dû mettre 5 ans pour pouvoir rentrer dans son pays.
Voilà. Est-ce qu'il l'a fait, je dirais, de bon gré
Il l'a fait de bon gré, mais sans aucun esprit de revanche. C'est ça qui était admirable chez cet homme, c'est qu'il n'était pas du tout dans la nostalgie du passé. Il travaillait pour l'avenir.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
C'est l'archiduc Otto de Habsbourg qui est au cœur de l'histoire cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Jean Sévilla, écrivain, rédacteur en chef adjoint au Figaro Magazine et membre du comité scientifique du Figaro Histoire.
Alors Otto de Habsbourg avait épousé une princesse allemande, il vivait en Allemagne, en Bavière, nous l'avons dit, il était élu allemand au Parlement européen, et pourtant on a l'impression qu'il était très francophile, il tenait beaucoup à son appellation de Habsbourg-Lorraine, et il s'est montré suffisamment proche de la Lorraine et des Lorrains pour y élire domicile d'une certaine manière, pour venir s'y marier notamment, Jean Sévilla.
En 1951, en effet, le mariage de l'archiduc Otto avec la princesse Regina va être un grand événement qui a fait la une des...
Les Lorrains s'en souviennent, certains de nos auditeurs le disent.
Les Lorrains s'en souviennent, c'est très frappant quand les anciens de cette génération-là se rappellent cet événement. En effet, il y a eu une grande fête impériale et donc cet ancrage lorrain a beaucoup compté pour Otto, en effet. La crypte qui est aujourd'hui plus accessible qu'elle n'était à l'époque, d'ailleurs, où sont enterrés les ducs de Lorraine, était, il considérait que ça faisait partie de son ancrage familial, personnel. Et puis, au-delà de la Lorraine, il était très, très francophone, francophile. Il a vécu assez souvent à Paris. Hein. Il a vécu à Paris avant-guerre, entre l'Anschluss 38 et la guerre. Lui, personnellement, vivait à Paris. Après-guerre, comme jeune marié, il a vécu à Rambouillet avec sa jeune femme. Il venait extrêmement souvent en France. Il parlait français, vous l'avez très bien souligné, Franck Ferrand, comme vous et moi, on l'a entendu tout à l'heure, un français parfait. Et puis, il avait une conscience, peut-être on le redira tout à l'heure, une conscience politique importante de l'Europe, mais il attribue à la France un rôle important dans l'Europe.
Oui, oui, même un rôle directeur, on pourrait presque dire. Il y a une personne qu'il faut souligner dans cette destinée-là, c'est sa mère, bien entendu, qui l'a élevée, et pour cause, hein, puisqu'il avait 10 ans au moment de la mort de son père, qui a voulu le meilleur pour lui, qui n'était pas d'accord avec lui en 1961, justement, au moment de la renonciation. Ça a été compliqué, sans doute.
Il n'a pas dit 10 ans, en tout cas.
Oui, enfin, il semblerait qu'elle est désapprouvée. Elle va elle-même revenir, cette impératrice Zita, dans son pays, en Autriche, à Vienne. Ça a été un des grands moments des années 80, hein, il ne faut pas l'oublier.
Oui, donc l'impératrice Zita avait quitté l'Autriche avec l'empereur Charles en 1919. Et après 63 années d'exil, en 1982, elle a le droit enfin de revenir dans son pays. Son retour...
C'est une espèce de triomphe,
a été incroyable.
C'est,
en l'occurrence, c'était une messe qui devait être célébrée en l'hommage de son retour. Et ils n'avaient pas prévu de service d'ordre parce qu'ils s'attendaient à quelques centaines de personnes plutôt âgées. En réalité, il y a eu des milliers de personnes. Il a fallu appeler la police pour assurer la sécurité de l'impératrice parce que tout le monde voulait la voir, la toucher. Ça a été quelque chose de très étonnant. On préparait là aussi un basculement. 82, c'était des années où on sentait que le monde de l'Est commençait à s'effriter.
Voilà, bien sûr.
Et l'impératrice, mais on le verra encore plus au moment de ses obsèques en 1989, symbolisait l'union des deux Europes parce que il ne faut pas oublier que les deux tiers des territoires qui avaient vécu, qui étaient ceux des Habsbourg, ont été sous la férule du communisme pendant toute la période de la guerre froide.
On peut imaginer que Otto de Habsbourg, pan-européen, catholique, anticommuniste et en même temps favorable à l'union de l'Europe, de tous les peuples d'Europe, évidemment il était Habsbourg, a tout fait pour faciliter bien entendu cet effondrement du rideau de fer. Notre auditeur, Alexandre, qui est à l'origine de cette émission qui nous en a donné l'idée, parlait justement de ce grand pique-nique pan-européen du 19 août 88.
À Sopron, à la frontière austro-hongroise, voulais-je dire, c'est un lapsus. en effet, c'est un événement peu connu, votre auditeur a vraiment raison de le souligner. Otto a participé à embrayer le mouvement pan-européen, à organiser une manifestation qui a contribué à tous ces éléments qui ont été participés au basculement, à l'effondrement du rideau de fer ou du mur de Berlin en 1989.
Il est allé jusqu'à se faire élire donc en 79 au Parlement européen. Avant cela, déjà, ça avait commencé depuis 20 ans cette affaire. L'engagement pro-européen de Otto de Habsbourg, c'était déjà même d'ailleurs aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, ça n'a jamais cessé. Il faisait partie de ces personnes qui avaient été profondément marquées par la Seconde Guerre mondiale et par ses prodromes et qui voulaient en quelque sorte définitivement écarter le spectre de la guerre, c'était ça son idée ?
Il y avait cette idée-là, bien sûr. Il pensait qu'il fallait bannir la guerre de l'Europe et non que les pays européens devaient s'unir. Il y avait cette idée que les Européens ont une communauté de destin, mais il y avait aussi en même temps chez lui un très grand respect des identités particulières de chaque nation. Vous savez, l'archiduc Otto admirait énormément le général de Gaulle. C'était réciproque. Il m'a souvent dit que, au fond, il avait la même vision de l'Europe que celle du général de Gaulle. C'était l'Europe des nations. C'est-à-dire l'Europe, vraiment l'Europe. C'est-à-dire que là, il croyait qu'il y avait une identité européenne, qu'il fallait que l'Europe se donne des moyens, des institutions, mais dans le respect des nations qui composent l'Europe.
Est-ce que ça, finalement, c'est pas ce que ses ancêtres avaient toujours tenté d'accomplir ? Est-ce que ça n'est pas le projet Habsbourg que vous décrivez ?
Exactement. Je veux dire, à l'échelle de l'Europe centrale, les Habsbourg avaient fait une Europe avant l'heure, c'est-à-dire en faisant cohabiter des peuples ayant des cultures différentes, des langues différentes, des religions différentes, dans un ensemble qui, au fond, avait son harmonie. On a détruit l'Autriche-Hongrie. On peut poser la question légitimement, est-ce que ça n'a pas été une erreur ? Alors aujourd'hui, l'Europe s'est écrite différemment, mais je veux dire, on a payé très sévèrement, dans l'entre-deux-guerres, l'effondrement de cette puissance que représentait l'Autriche-Hongrie, qui avec ses qualités et ses défauts, représentait quand même une harmonie, a permis à des peuples de vivre ensemble, ces peuples qui ensuite seront les victimes de Hitler puis de Staline.
Ce qui est assez étonnant, c'est que l'archiduc Otto ne donnait pas le sentiment de parler du haut de son histoire et de sa famille. Il ne donnait pas du tout l'impression d'être une tête couronnée, si je puis dire. Il se mettait au même rang que les autres. Il a été d'ailleurs à plusieurs reprises félicité par le Parlement européen pour son assiduité, pour sa très grande courtoisie, etc., pour sa participation aux travaux des commissions. Enfin, tout ça, il était entre guillemets au même niveau que les autres. Et en même temps, on a l'impression que l'ensemble de son inspiration était directement fidèle à l'inspiration, vraiment de ses plus grands ancêtres, à commencer par Charles Quint.
Oui, il était pleinement Habsbourg. Vision qu'il portait, si je puis dire, dans ses gènes, enfin dans sa culture personnelle. Et en même temps, il était lui-même un homme d'une grande humilité. Il se voulait serviteur d'une idée, mais il ne se mettait pas plus haut que les autres.
Il a des descendants aujourd'hui, des successeurs. Il y a un héritier notamment. Il y a toujours un chef de la maison de Habsbourg.
Il y a son fils aîné, Karl. Il y a un fils cadet, Georg. Et puis ensuite, il y a une famille. Ils sont nombreux.
Mais on a l'impression qu'ils n'ont pas tout à fait le même poids, la même autorité. Alors évidemment, ils n'ont pas non plus le même passé, notamment cette affaire de la Seconde Guerre mondiale.
D'une certaine manière, les obsèques d'Otto, c'était un tournant de l'histoire. Voilà. Est-ce qu'on reverra un homme de la même ampleur qui était un pied dans le nouveau monde et un pied dans l'ancien monde? Je ne sais pas. Mais
vous y étiez, vous, à ces obsèques?
J'y étais, oui. C'était un moment très émouvant. Très émouvant parce que c'était... C'était deux mondes qui cohabitaient dans l'hommage au même homme. La vieille Autriche, la nouvelle Autriche, l'ancienne Europe monarchique et la nouvelle Europe, parce qu'il y avait aussi tout un tas de multiples autorités de l'Europe actuelle.
Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui et qu'est-ce qu'il restera de l'archiduc Otto de Habsbourg-Lorraine ?
Je crois d'abord l'idée que la volonté politique peut beaucoup, l'idée qu'il faut être fidèle à ses principes, l'idée qu'on peut construire dans quelque chose de fort, mais dans le respect des personnes. L'idée européenne au sens très fort, au sens d'un héritage de l'histoire respectueux des identités religieuses, nationales, des identités ethniques. L'archiduc Otto détestait le racisme, c'était contraire à sa vision. Il était très respectueux des musulmans, par exemple, parce qu'il y avait l'islam faisait aussi partie. Il y avait des musulmans dans l'empire ancien empire austro-hongrois, donc il était très respectueux de toutes les identités. Et en même temps, lui, profondément chrétien, catholique, pensait que l'Europe pouvait être quelque chose qui était un toit commun à des gens ayant des origines diverses et pouvait leur permettre de vivre ensemble. Je crois que c'est une idée forte.
Voilà. Je pense que pour ses descendants actuels, certains le disent clairement, il a été un modèle, vraiment un immense modèle, un petit peu la statue du commandeur même, disons-le. Il peut devenir un modèle pour bien d'autres personnes, hein, il faut le dire, pas seulement pour les petits Habsbourg d'aujourd'hui, car son comportement est assez exemplaire. J'ai employé ce terme tout à l'heure au début de l'émission, exemplaire. C'est assez exemplaire sur bien des aspects, des domaines.
Des aspects, hein. Oui, par exemple, aujourd'hui on voit partout des histoires, souvent la politique n'est pas très propre, or jamais on a pu reprocher à Archie Lecoteau une histoire d'argent, une histoire de ce que sais-je. C'est un homme d'une grande probité personnelle, donc on peut faire de la politique dans la probité personnelle.
Oui, vraiment, ça il l'a prouvé. Est-ce que son parti, là, l'Union Pan-Européenne Internationale, existe toujours ?
Oui, mais ça n'a plus le poids que ça avait de son vivant, il faut bien l'avouer.
Hein. Oui. C'était le grand mouvement des années 80, ça, en fait.
Oui,
c'est
oui.
Ça.
Puis l'histoire avance. L'Europe a aussi changé par rapport aux intuitions du départ. Hein.
On peut peut-être regretter qu'il n'ait pas eu finalement qu'il n'ait jamais exercé de vraies responsabilités politiques, en tout cas plus haut niveau.
C'est le fond de ma conviction, oui. Moi, je pense que c'est l'histoire a été cruelle avec lui, même la Providence, d'une certaine manière. Je pense que c'est un homme qui, il est né entre deux mondes, c'est pas facile, voilà. Et donc, s'il a vu de très haut, c'est un homme qui avait la dimension pour, si on avait été dans un système monarchique, il était dans la dimension pour être empereur.
Ça aurait été un grand empereur.
Et si on avait été dans un système républicain, il avait aussi la dimension pour être un chef d'État.
Exactement, oui.
Mais comme il était entre les deux mondes, au fond, il a été rejeté un peu partout.
Voilà. Ouais, c'est assez. On a l'impression qu'on ne lui a véritablement rendu hommage qu'après sa mort, ou en tout cas quand il n'était plus vraiment dans les affaires. Il a eu la chance, peut-être, pendant les dernières années de sa vie, de recevoir beaucoup d'hommages, etc. Mais il n'était déjà plus dans le circuit,
exactement,
d'une certaine manière.
Il ne connaissait plus personne.
Il n'était plus un danger pour quiconque. Merci infiniment, Jean Sévillia. Je conseille évidemment à nos auditeurs la lecture de ces biographies auxquelles vous faisiez vous-même allusion tout à l'heure. Zita, impératrice, courage, qui a été réédité chez Perrin en 99, et puis Le Dernier Empereur, Charles d'Autriche, réédité chez Tempus dans la collection Poche des éditions Perrin en 2012. Un empereur, Charles Ier, béatifié, dont on attend la canonisation, si je ne m'abuse.
Voilà, peut-être un jour.
Ça aurait fait plaisir à Otto, ça, évidemment.
Peut-être, voilà.
Merci beaucoup de votre visite et de vos beaux témoignages.
C'était un extrait de la symphonie alpestre de Richard Strauss sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Emmanuel. Il nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Et Emmanuel voudrait connaître les origines du drapeau brésilien.
Alors, il est un peu original ce drapeau brésilien, mais on a l'impression de l'avoir quasiment adopté avec cette affaire de Coupe du Monde. Là, on ne voyait que ça partout. Donc, vous connaissez les couleurs, jaune, vert, bleu. C'est pas les couleurs les plus utilisées habituellement dans les drapeaux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même un peu des couleurs un peu bizarres. Habituellement, c'est la combinaison bleu et rouge, hein, d'ailleurs, qui est le plus répandue. Ce serait intéressant de regarder sur la quantité des drapeaux du monde, ceux qui sont bleu, blanc et rouge, d'une manière ou d'une autre. À mon avis, c'est plus de la majorité. Tiens, je fais le pari là comme ça, mais j'en suis presque sûr. C'est à vérifier. En 1822, Pierre de Bragance, qui est le fils du roi Jean VI de Portugal, va déclarer l'indépendance du Brésil. Il est d'ailleurs marié, tiens, entre parenthèses, il est marié lui-même à Marie-Léopoldine de Habsbourg-Lorraine, figurez-vous. Vous voyez que les Habsbourg-Lorraine sont un peu partout. Il décide d'adopter donc un drapeau aux couleurs de leurs deux familles, un fond vert pour la famille de l'empereur, décoré d'un losange d'or, couleur de la maison royale des Habsbourg. Voilà, les Habsbourg sont sur ce drapeau aussi. Le drapeau sera modifié le 15 novembre 1889. Qu'est-ce qui se passe le 15 novembre 1889? Mais figurez-vous que c'est évidemment la proclamation de la République. Alors, il y a là plusieurs éléments qui vont s'ajouter au dessin original et on va attribuer aux couleurs jaune et vert une nouvelle signification. Bien entendu, on ne va pas rester dans l'interprétation dynastique des choses. Il fallait s'y attendre. Le vert, à ce moment-là, devient le symbole, certains diraient de l'espérance. Officiellement, en tout cas, si vous lisez le descriptif officiel du drapeau brésilien, ça devient le symbole de la forêt amazonienne, évidemment, hein, qui couvre l'essentiel de ce gigantesque territoire. Et puis, le jaune devient le symbole de la richesse aurifère d'un sous-sol brésilien qui a tant fait rêver l'Europe et ses conquistadors, n'est-ce pas ? Le cercle bleu, par ailleurs, vous savez qu'il y a ce cercle bleu décoré de 27 étoiles, est ajouté au centre. Alors là, la signification est très étonnante puisqu'il représente la croix du sud, une petite constellation de l'hémisphère austral. Et la façon de disposer les étoiles sur ce fond marine correspond à l'emplacement exact des étoiles. Alors attention, au moment de la proclamation de la République, le 15 novembre 1889 à 8h30. Donc je ne sais pas si on apprend aux jeunes écoliers dans les écoles brésiliennes à disposer exactement les étoiles sur le fond bleu, mais vous avouerez que c'est assez étonnant. 26 étoiles qui apparaissent donc sur la partie inférieure du disque représentant les 26 États fédérés du Brésil et un astre unique sur la partie supérieure pour le district fédéral de Brasilia. Et pour en finir, on choisit d'intégrer à tout ça une bannière avec la devise du Brésil, Ordem et Progresso, l'ordre et le progrès, n'est-ce pas ? Une devise que les Brésiliens ont empruntée au philosophe français Auguste Comte, figurez-vous le fondateur du positivisme, vous savez. Il faut savoir qu'à cette époque, les intellectuels français jouissaient au Brésil d'une renommée extraordinaire. Je parle de ça au passé, mais vous aurez rectifié de vous-même.